France Culture, Tain l'a fait.
Les débats autour de la cancel culture et de la séparation entre l'auteur et l'œuvre reviennent sans cesse. Faut-il donc continuer à lire, à publier, à enseigner des écrivains dont les idées ou les engagements sont problématiques? Mais ces questions ne naissent pas avec les réseaux sociaux. À la Libération, en 1945, elles prennent une forme très concrète avec la catégorie d'écrivains collaborateurs. Comment des intellectuels donc, comme Céline, comme Maurras, comme Drieux-Larochelle, Brasillac ou Rebattet sont publiquement requalifiés, mis à distance, parfois sanctionnés, sans que cela signifie toujours disparition totale, car des soutiens et des relais subsistent dans l'édition, la presse ou certains réseaux intellectuels. Alors, comment cette catégorie d'écrivains, collaborateurs a-t-elle été fabriquée historiquement et comment ses effets continuent-ils encore à peser sur ce que l'on fait aujourd'hui encore de ses œuvres et que faire d'ailleurs de ces écrivains collaborateurs? Un invité pour nous éclairer, Tristan Rouquet, bonsoir.
Bonsoir Quentin Laffey.
Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université Paris-Nanterre, associé à l'Institut des sciences sociales du politique, chargé d'appui scientifique au musée de la résistance et de la déportation de la Haute-Garonne, et vous avez fait paraître chez CNRS Éditions les écrivains collaborateurs, engagement, stigmate et postérité. Merci d'être venu ce soir à Question du Soir.
À l'occasion de la semaine du livre allemand, de nombreux poètes et écrivains représentant 14 nations se sont réunis à Weimar. Ainsi se crée un courant d'échanges culturels dans le cadre de la Nouvelle Europe. À la tête de la délégation française, citons messieurs Abel Bonnard, Robert Brasillac, Ramon Fernandez, Jacques Chardonne et Drieux-Larochelle. Le docteur Goebbels, ministre de la propagande du Reich, vient inaugurer l'exposition annuelle du livre allemand, une des plus importantes manifestations bibliophiliques d'Europe.
Une archive du 14 novembre 1941, Tristan Rouquet, on les connaît ces noms, Bonnard, Brasillac, Fernandez, Chardonne, Drieux, Larochelle, Goebbels également en face qui les accueillait. En quoi la catégorie d'écrivain collaborateur nous permet-elle de penser la façon dont on conçoit aujourd'hui cette notion de cancel culture ?
Alors, si vous voulez, la notion d'écrivain collaborateur, la collaboration elle-même est mise en place par Philippe Pétain durant l'occupation. Il dit que c'est dans l'honneur que la France va rentrer dans la collaboration. Donc au début, ce sont les collaborateurs qui se revendiquent comme tels. Et dès l'occupation, la résistance va également les désigner du doigt. Et à la libération, durant la répression des faits de collaboration, durant l'épuration, des écrivains résistants réunis au sein du Comité national des écrivains et ainsi que le Comité national d'épuration des gens de lettres vont désigner tout un tas de gens que j'étudie comme des écrivains collaborateurs, et ces personnes vont pouvoir avoir des procès. Ces gens-là, ils ont, pour certains d'entre eux, une postérité. Dans l'archive qui a été diffusée, il y a par exemple Pierre Drieux-Larochelle, qui est à la Pléiade chez Gallimard depuis 2012. Mais pour en revenir à la cancel culture, ben par exemple, il n'y a pas de collège ou de lycée, à ma connaissance, sauf erreur, du nom de Pierre Drieux-Larochelle. D'ailleurs, plutôt que de parler de cancel culture, je préférerais peut-être le terme de Sarah Gainsbourg de décommémoration, parce que ça pointe l'idée d'une distinction entre le public, ce que font nos représentants et représentantes, et qui n'ont probablement pas laissé de place au nom de la République pour les anti-républicains, et les aspects privés, par exemple éditoriaux. La maison d'édition Gallimard est libre, si elle le souhaite, de faire rentrer Pierre Drieux-Larochelle à la Pléiade.
Voici ce que vous écrivez, Tristan Rouquet, je vous cite. L'inscription puis le retrait de Louis-Ferdinand Céline au recueil des célébrations nationales du ministère de la Culture et de la Communication en 2011. La parution en 2012 des romans, récits, nouvelles de Pierre Drieux-Larochelle dans la bibliothèque de la Pléiade. Vous l'évoquiez, l'édition de la correspondance de Paul Morand et de Jacques Chardonne depuis 2013 chez Gallimard encore. La réédition des Décombres de Lucien Rebattet en 2015. L'initiative avortée en 2018 de la publication des pamphlets de Céline. La polémique provoquée cette même année autour de la présence de Charles Maurras et de Jacques Chardonne dans le livre des commémorations nationales. La répartition enfin de manuscrits inédits de Céline à l'été 2021 sont autant d'éléments qui témoignent d'une actualité marquée par certains des écrivains reconnus comme les plus compromis de l'occupation. Comment se fait-il que ces collaborateurs aient réussi à traverser le temps, indépendamment d'ailleurs de la qualité de leur œuvre.
Cette actualité éditoriale nous surprend aujourd'hui, et pourtant elle n'est pas neuve. Si on remonte à la fin des années 1940, l'écrivaine Elsa Triolet, en 1948 je crois, dans les Lettres françaises, un journal issu de la Résistance, écrivait que sur les étals des libraires, les écrivains, enfin les écrits produits par la Résistance ont été remplacés par les romans américains, et puis ensuite par les écrits des collaborateurs. Donc en quelque sorte, ce retour de la collaboration ne fait pas totalement sens, puisqu'il est présent dès la fin des années 40. Aujourd'hui, les personnes dont on parle, elles sont présentes parce que des éditeurs entretiennent leur présence dans le monde de la librairie, mais encore parce qu'on parle aussi, en l'occurrence, des plus reconnus. On ne va pas retrouver sur les étals des libraires tout un tas de personnes dont les noms sont aujourd'hui oubliés, comme entre autres Michel Allerme ou Émile Bocquillon. Donc il y a des enjeux qui permettent à ces personnes de survivre auprès des éditeurs, parce que, par exemple, ils peuvent rapporter de l'argent, ils vendent beaucoup de livres, donc ça serait dommage pour des éditeurs qui veulent gagner de l'argent de se séparer de ces auteurs, mais aussi parce qu'il y a eu tout un tas d'enjeux, de luttes, pour savoir qui appartenait à la collaboration ou non, et ces auteurs aussi ont beaucoup travaillé pour effacer ce stigmate de la collaboration.
On va entrer dans le détail de ces trajectoires, mais je redonne le titre de votre ouvrage, Tristan Rouquet, « Les écrivains collaborateurs ». Mais qu'est-ce que cette catégorie recouvre véritablement ? On imagine bien qu'il y a une diversité, là encore, de profils, de trajectoires, d'œuvres, même de rapports à soi-même et à sa profession.
Effectivement, derrière ce terme d'écrivain, qui est difficile à définir, un écrivain c'est quelqu'un qui est censé vivre de sa plume, mais si on prend quelqu'un comme Robert Brasillach, j'ai eu accès à ses tirages par exemple à travers des archives, il ne vivait pas de ses écrits, des livres publiés, mais de ce qu'il écrivait dans la presse et notamment dans le journal pro-nazi Je suis partout, dont il a été rédacteur en chef jusqu'en 1943. Donc à ce titre-là, si on veut absolument le qualifier...
Je suis partout qui était la grande revue de l'Action française, pardon.
Alors, absolument. Je suis partout. Donc, c'était plus. C'est les enfants de l'Action française, en quelque sorte, qui ont rompu avec Maurras pour entrer dans le fascisme à travers Je suis partout. Et Robert Brasillach, là, à ce titre-là, en tant que rédacteur en chef de Je suis partout, vit plus en tant que journaliste. Donc, cette notion d'écrivain, elle est plastique et on va retrouver des gens très différents à l'intérieur de ces personnes-là. Le portrait robot de l'écrivain collaborateur, c'est qu'il y a quelqu'un qui est un homme, déjà, et non pas une femme. C'est quelqu'un qui a 49 ans en 1940, donc quelqu'un plutôt âgé, plutôt issu de la bourgeoisie, éduqué. Et Pierre de La Rochelle l'incarne, par exemple, puisqu'il a 47 ans, il est fils d'avocat, il a fait des études à Sciences Po.
Je voudrais vous faire entendre une archive hallucinante. On entend Lucien Rebattet, un ancien de l'Action française, interviewé par Jacques Chancel en 1969.
Et ma question va peut-être vous surprendre, Lucien Rebattet. Est-ce que vous avez honte de tout ce qui s'est passé ?
Alors, parle-moi du monde. Si j'avais honte, d'ailleurs, je ne serais pas à ce micro. Je me suis battu pour la cause que je croyais bonne. J'ai été condamné à mort. J'ai trouvé que c'était normal.
Est-ce que vous trouvez que normal d'avoir été gracié ?
Je trouve également normal d'avoir été gracié, étant donné que les fabricants du mur de l'Atlantique avaient 4 ans de prison.
Vous ne pensez pas, Lucien Rebattet, que pour un journaliste, dans une situation donnée comme celle-là, la plume peut être une mitraillette et beaucoup plus loin un four crématoire ?
Mais, oh, un four crématoire, ça je ne sais pas, je n'ai pas connu, comme d'ailleurs tous les Européens, je n'ai pas connu les fours crématoires avant 1945. Quant à la mitraillette, ça tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'ai souvent comparé les décombres à une espèce d'obus de rupture, ce qui explique que j'y ai tassé le maximum d'explosifs.
Lucien Rebattet, qui s'est battu pour la cause à laquelle il croyait, c'est-à-dire le fascisme, concrètement, Tristan Rouquet, comment est-ce que vous analysez cette archive, ce que vous entendez là ?
Il y a énormément de choses qui se jouent dans cette archive. D'une part, elle déstabilise, elle dérange. On est sur France Inter en 1969 et un condamné à mort pour intelligence avec l'ennemi, qui a certes été gracié, a le micro face à Jacques Chancel. Et puis, il se targue de ne pas regretter le moins du monde son engagement. À ce titre-là, il a beaucoup évolué, Lucien Robatté, parce que lorsqu'il sort de prison en 1952, il est accompagné d'un grand roman.
Rappelez-nous, pardonnez-moi, je vous coupe. Rappelez-nous peut-être d'un mot ce qu'il fait effectivement pendant la guerre.
Alors, Lucien Robatté a commencé à l'Action française, on en parlait tout à l'heure, et tournant plutôt vers le fascisme, il tourne le dos au conservatisme de l'Action française et rentre donc à Je suis partout, principalement comme critique cinématographique. Il va produire déjà des pamphlets antisémites en lien avec le cinéma et va être l'auteur du best-seller de l'Occupation avec un livre, un pamphlet violemment antisémite, Les Décombres, qui a été réédité en 2015 chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Il est condamné à mort à la fin des années 40, mais il est également gracié, et donc il se retrouve en maison centrale à Clairvaux. À Clairvaux, il rédige un grand roman, dans le sens où il est volumineux, ce roman, plus de 1000 pages, qui est publié chez Gallimard. Donc ça serait plutôt une entreprise de réhabilitation, pouvoir passer de la collaboration à chez Gallimard. Et pourtant, la sortie de ce roman est frappée d'un certain silence. Il essaye à nouveau d'insister dans la littérature pour se refaire une beauté, si j'ose dire, avec les Épimures. Et là aussi, la critique ne suit pas. Et vu que ça ne marche pas, il revient à l'extrême droite en entrant à Rivarol, à Valeurs Actuelles. Et à ce moment-là, il endosse le stigmate. C'est seulement parce qu'il a échoué dans sa conversion littéraire qu'il peut sereinement ou feindre la sérénité au micro de Jacques Chancel quand il dit qu'il ne regrette rien.
Vous dites que c'est parce qu'il a au fond été rejeté de partout qu'il finit par assumer sa propre histoire, ce qu'il a été véritablement, c'est-à-dire un écrivain collaborateur.
Exactement, il fait en quelque sorte, si j'ose dire, de nécessité vertu, ou en tout cas faute de mieux, faute d'avoir pu intégrer le champ littéraire comme il l'espérait à travers la publication des Deux Étendards, qui entraîne une polémique entre Étienne et Jean-Paul Sartre, par exemple, Étienne disant qu'il faut malgré tout lire ce roman. Mais vu qu'il échoue dans cette reconversion dans le monde des lettres, il retourne au fascisme avec notamment les mémoires d'un fasciste qu'il signe comme ses mémoires chez Jean-Jacques Pauvert à la fin des années 70.
Au-delà, et ce que vous montrez très bien dans cet ouvrage Les écrivains collaborateurs, Tristan Rouquet, c'est que cette notion d'écrivain collaborateur, dès 1945, c'est une assignation identitaire, quelque chose qui vous colle à la peau au fond, qui a des conséquences concrètes, sociales, politiques, morales sur votre carrière d'écrivain. Alors lesquelles ?
Alors, il se joue quelque chose de très concret, c'est que je travaille à peu près sur 230 personnes, et sur ces 230 personnes, il y en a 150 qui sont inculpées auprès de la justice, auprès de l'épuration judiciaire. 108 personnes sont jugées, 95 sont condamnées, dont une vingtaine sont condamnées à mort et 4 sont exécutées. Donc, ces personnes-là payent leur responsabilité, leur engagement dans la compromission intellectuelle en favorisant la collaboration avec l'ennemi, et par leur condamnation à mort ou à la prison, sont entravés dans leur publication future pour rester écrivain. Et si vous voulez, ce qui va se passer, ça va être un grand rapport de force autour de la réputation de ces auteurs. Le stigmate, en quelque sorte, c'est l'identité sociale qu'on forge de ces gens-là. Les résistants les désignent comme collaborateurs, et ces personnes-là, elles vont faire en sorte de s'éloigner de ce stigmate ou de l'endosser, comme on vient de l'entendre avec l'archive de Lucien Robatté.
Trois options plus exactement, Tristan Rouquet, face à ce stigmate, ce que font ces écrivains collaborateurs de ce stigmate. Ils peuvent soit le subir, on va commencer par cela, l'endosser, vous l'avez évoqué, ou tenter de le renverser. On y reviendra. Alors comment on subit ce stigmate d'écrivain collaborateur dans les années 50 ou 60?
On subit ce stigmate de diverses façons. Déjà, dès le procès, l'épuration, la répression des faits de collaboration et un moment de structuration du stigmate. Ces personnes arrivent à la barre, dans des cours de justice, des chambres civiques, il y a la presse, et ils essayent de se défendre, de se présenter comme innocents, si ce n'est victimes, et la presse issue de la résistance, souvent, taille en pièces cette défense. Puis ensuite, il y a les preuves pour une partie d'entre eux de la prison, qui les éloigne là aussi du champ littéraire. Certains vont prendre un exil délibéré pour se délester de la condamnation de la justice française. Certains, comme Lucien Robatet d'ailleurs, vont errer en France parce qu'ils sont interdits de séjour en plus de la peine de prison qu'ils ont eue. Donc tout un tas de gens subissent des rappels à l'ordre, des moments où on les désigne comme collaborateurs. Par exemple, Sacha Guitry, en 1948, se rend à Lyon pour monter sur une scène de théâtre. Et il est enlevé par des résistants qui le forcent à observer une minute de silence devant le veilleur de pierre de la place Bellecour à Lyon. Ça, c'est un rappel à l'ordre stigmatisant. Mais Sacha Guitry étant tellement connu et ayant bénéficié seulement de non-lieu, donc en quelque sorte, il n'est pas condamné, Sacha Guitry, ben, il observe cette minute de silence, mais juste après, il monte sur scène. Donc, le stigmate l'atteint fort peu.
Endosser le stigmate, vous expliquez là aussi qu'il y a deux façons, au fond, d'assumer pratiquement la qualification sociale dont sont affublés ces écrivains collaborateurs. D'abord, l'entre-soi, c'est-à-dire, au fond, rester avec les siens, rester avec ceux qui ont collaboré et les réseaux afférents. Et dans le même temps, vous parlez aussi de ceux qui assument une forme de, c'est votre expression, carrière déviante. Qu'est-ce qui se joue dans cette notion-là de carrière déviante ?
Ces personnes-là, certains continuent dans leur trajectoire fascisante d'extrême droite et restent dans leur entre-soi, ou d'autres, on l'a vu avec Lucien Robatet, en désespoir de cause, retournent à cette case fasciste.
C'est toujours en désespoir de cause ?
Pas toujours.
Aucun n'assume, j'allais dire, dans le temps, au fond, ce qu'il a été durant cette période de la Seconde Guerre mondiale et, par souci de cohérence, et je mets des guillemets autour de l'expression, reste lui-même ?
Alors, si c'est le cas notamment, par exemple, d'une figure de l'extrême droite qui s'appelle Henri Coston et qui n'a jamais dévié de ses convictions d'extrême droite et notamment antisémites, jamais dévié, mais modifié. Par exemple, ces personnes, elles endossent le stigmate, mais pas de la collaboration. Déjà, c'est interdit. Par la loi d'amnistie de 1951, on ne peut pas faire l'apologie de la collaboration. Donc, elles vont plutôt se présenter comme des victimes de l'épuration, persuadées qu'elles n'ont rien à se reprocher. Mais aussi, entrer dans cet entre-soi des épurés, ça permet d'obtenir des postes dans une presse d'extrême droite qui existe encore aujourd'hui, par exemple, Rivarol, Valeurs Actuelles, donc de continuer dans son métier de journaliste ou d'écrivain, d'être payé et d'avoir un petit milieu dans lequel on est persuadé qu'on a raison et que c'est le reste du monde qui a tort.
Troisième option, comment renverse-t-on le stigmate ? Comment cette qualification sociale dont on nous affuble depuis 10, 20, 25 ans, parfois depuis 1945 en tout cas, comment fait-on pour la transformer aux yeux du grand public ?
Vous l'avez très bien dit, l'enjeu du stigmate est une lutte, un rapport de force entre une identité sociale qui est imposée, celle de collaborateur, et une identité soit dont on veut se défaire, soit l'endosser ou la renverser. Je prends l'exemple du cas de Céline. Céline, par exemple, il va parler dans ses romans d'après-guerre de son passage au Danemark, en Allemagne. Il va, à ce titre-là, endosser le stigmate, mais plutôt de victime de l'épuration, parce qu'il ne parle jamais de la collaboration, Céline, dans ses romans. Même le terme collaborateur et collaboration sont entre guillemets, donc il les met à distance, il les congédie. Mais en même temps, il entretient une sorte de capital subversif en donnant à voir, il le dit dans une archive à Jean Paulhan, qui travaille chez Gallimard, qui a contribué à le rapatrier chez Gallimard à partir de 1951. Céline s'exile à Sigmaringen, donc un château en Allemagne où beaucoup de collaborateurs vont s'exiler. Il dit
à la toute fin de la guerre. Hein.
Exactement. Et il dit, on me dit que j'ai collaboré parce que j'ai été à Sigmaringen, ben ils vont bien, vu qu'ils veulent tant savoir ce qui s'est passé, un jour je leur en donnerai du Sigmaringen. Et il écrit et édite d'un château l'autre. Et en fait, le renversement du stigmate, c'est cacher le cadavre du crime de collaboration dans le placard, en assumer seulement la subversion pour imposer aux autres l'image que l'on a de soi-même.
Louis-Ferdinand Céline, justement, en 1957, cette fois, il est interviewé par Albert Sbinden.
Je n'ai jamais persévéré à rien de ces affaires politiques. Non, du tout. Je n'ai jamais collaboré à aucun journal, ni donné des interviews, ni parlé à la presse, ni voté, ni fait partie d'un parti. Je suis absolument strictement indépendant et je m'élevais simplement contre comme écrivain, je croyais dans ma vanité pouvoir influencer qui que ce soit en faveur de la paix. Bon, c'est tout, strictement tout, n'est-ce pas ? Quand ils sont entrés en France, ben, je n'étais pas partisan, je n'ai jamais dit « Hurrah, vive les Boches !» ça m'amusait pas, comme les autres. Moi, je n'ai rien à me repentir de rien du tout. Je n'ai jamais été partisan de ceci, cela. J'étais partisan de l'armée allemande parce qu'elle maintenait la paix en Europe, en France en particulier, et a conservé ses colonies. Oui. Mais c'est tout.
Bon, écoutez, Céline, on a l'impression que ça a été le plus grand pacifiste de l'époque. En réalité, on est là peut-être dans le plus pur tissu de mensonges. C'est aussi une stratégie classique.
Céline ment. Céline a fait partie d'un parti, ou plutôt d'un groupe, le Cercle Européen, où il est membre du comité d'honneur. Céline ment quand il dit qu'il n'a jamais parlé à la presse. Il envoie des lettres, dont certaines sont des prises de position pro-nazis, dans ce qui se fait de pire dans la presse collaborationniste, comme par exemple le journal Au Pilori. Céline ment encore, puisqu'il a publié un autre pamphlet antisémite en 1941, Les Beaudrats. Donc, à ce moment-là, Céline, comme je l'ai dit tout à l'heure, met de côté la collaboration.
Mais pardonnez-moi, comment continue-t-il de mentir publiquement, là aussi, face à la presse, face à un journaliste? Il sait bien qu'il sera repris, il sait bien que ses écrits ont été publics, que ses engagements à l'époque l'étaient tout autant. Quelle stratégie de mentir? Comment avancer, là aussi, et rester soi-même?
Céline, ça peut paraître paradoxal, mais a deux éléments pour lui. D'une part, il a le droit, il dispose moralement de son œuvre, il s'oppose à la réédition des pamphlets, donc qui implique pour des journalistes qui voudraient travailler d'aller consulter des pamphlets dans des bibliothèques, ce qui peut être coûteux. Et par ailleurs, ses lettres dans la presse, il ne tenait pas rubrique dans un journal en particulier fréquemment. Donc elles sont éparses et difficiles à trouver. Donc il peut plus facilement dissimuler sa compromission et ses engagements antisémites et pro-nazis de l'occupation. Et puis, il va aussi, comme un prestidigitateur, donner à voir autre chose. Et cette autre chose, c'est son exil, sa position de victime, pense-t-il en tout cas, en Allemagne, au Danemark, où il est emprisonné.
Je voudrais qu'on dise un mot, vous l'avez déjà abordé d'ailleurs cette question, celle des éditeurs ou des intermédiaires. On a bien compris l'intérêt économique de certains de ces acteurs de continuer, de recevoir, de fréquenter, de publier ces écrivains collaborateurs. Existe-t-il cependant également des communautés morales, des éditeurs qui sont au fond en accord, qui ont collaboré aussi durant cette période et qui poursuivent ce travail de filiation à travers le temps?
Alors, le monde de l'édition a nécessairement et structurellement collaboré, à l'exception des maisons d'édition clandestines type les éditions de Minuit ou Segers. Les éditeurs sont toujours partagés entre les enjeux économiques, faire de l'argent pour qu'une entreprise commerciale fonctionne, et les enjeux symboliques, avoir un beau catalogue avec des grands noms de la littérature.
Une réputation.
Une réputation. Et à ce titre-là, par exemple, la maison d'édition Gallimard est ambivalente durant l'occupation comme après. Durant l'occupation, pour réouvrir, elle va donner les clés de la nouvelle revue française à Pierre Druel-La Rochelle et ses opinions collaborationnistes. Elle donne des gages aux nazis. Et en même temps, elle édite Louis Aragon, qui est engagé dans la résistance clandestine. Et après-guerre, il en va de même avec des intermédiaires comme Jean Paulhan, qui est un peu une éminence grise de Gallimard et qui tient les deux bouts. Par contre, à l'extrême droite, ça va être des maisons d'édition qui se succèdent, des groupuscules qui se créent, qui se défont, et d'autres groupuscules qui prennent leur place et qui continuent à éditer ce qui s'est fait de pire durant les années noires.
Est-ce qu'historiquement, vous observez dans cette seconde moitié du XXe siècle une rupture quant à la façon dont ces éditeurs, dont le monde littéraire, dont les journalistes littéraires également, et même au-delà, les lecteurs abordent cette question et cette catégorie des écrivains collaborateurs ?
Il y a effectivement, à partir des années 1970, et les historiens et historiennes de la mémoire s'accordent là-dessus, une forme de tournant, où il y a une attention plus grande portée sur la collaboration, l'occupation Vichy. Ce qui peut entraîner, on l'a vu avec l'exemple dans les années 70 de ce qu'on appelait la mode rétro, une sorte de fascination un petit peu morbide pour la collaboration, mais ça va en quelque sorte aussi autoriser à donner à voir ce qui s'est passé. Et après, il est très difficile de savoir qu'est-ce qui anime un lecteur ou une lectrice. Ça peut être des enjeux esthétiques, lire un roman d'une personne qui a une bonne réputation littéraire tout en ayant une réputation et avoir agi en tant que collaborateur. Ça peut être une ambition historienne, se documenter, se renseigner. Ça peut être aussi des convictions politiques des personnes qui partagent les idées de ces gens-là et qui les lisent pour ces raisons.
Tristan Rouquet, merci beaucoup, c'était passionnant de vous écouter, de vous lire également. Donc je redonne le titre de cet ouvrage, Les écrivains collaborateurs, engagement, stigmate et prospérité, c'est chez CNRS Éditions. Et merci par ailleurs à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Rodi Eken, Bruno Barada, Bertie Bourdon, à la réalisation Léa Racine.